OK, on va commencer notre 84e leçon dans notre série sur la théologie systématique. Ce matin, nous allons voir la doctrine, les objets de la rédemption par Christ. Alors, on est encore dans la rédemption par Christ. On avait vu les principes généraux, là. On avait vu aussi la deuxième leçon, je m'en souviens plus. En tout cas, la troisième leçon sur la rédemption. Alors, aujourd'hui, c'est les objets. Aujourd'hui, on va voir plus de détails, l'œuvre du souverain sacrificateur de Christ, qui comprend différentes facettes, dont la rédemption. On va avoir encore la leçon d'aujourd'hui, celle de mercredi, qui va être encore sur la rédemption. Après ça, on va avoir la rémission des péchés, la justification, l'adoption, la propitiation et l'expiation, la régénération, l'appel irrésistible, la conversion, la sanctification, la préservation et la persévérance des saints. Là, on voit qu'on est encore pour quelques semaines dans l'œuvre de Christ. Alors, on avait vu, dans la leçon précédente, c'était la rédemption par Christ, et aussi on avait vu les causes de la rédemption. Maintenant, on va voir les objets de la rédemption. Dans la prochaine leçon, on va étudier la rédemption en étudiant les textes bibliques qui semblent favoriser une rédemption universelle. Et on va chercher à les harmoniser avec les textes de la rédemption particulière et expliquer les apparentes contradictions. Il faut vraiment mettre l'accent sur « apparent » parce que c'est vraiment apparent. Ce n'est pas vraiment une contradiction. Premier point qu'on va regarder ce matin, les objets de la rédemption par Christ. Il est important de comprendre que la rédemption par Christ était uniquement pour son peuple, c'est-à-dire ses élus. Ce que dans la théologie on appelle la rédemption particulière, ou souvent on va utiliser aussi expiation limitée, mais je pense que la plupart des auteurs préfèrent le terme rédemption particulière. Alors on va examiner cette doctrine-là d'un peu plus près. On va regarder par exemple dans Apocalypse chapitre 14 versets 3 et 4. Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Voyez-vous, qui avaient été rachetés, ça implique que ce n'est pas tout le monde, 144 000. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, donc ça implique que ce n'est pas tous les hommes qui sont rachetés, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Tite 2, verset 14, dans la version Osterval, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier, et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Alors, c'est vraiment clair de se former un peuple particulier. Alors, ça démontre que ce n'est pas l'ensemble de l'humanité qui était touchée par la rédemption par Christ. Alors, on va regarder aussi quelques versets et on va voir qu'il faut avoir une attention particulière sur l'utilisation du mot « nous » dans les versets Romains 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Alors, quand il parle du « nous », ça implique les élus de Dieu et non pas « nous, l'humanité ». En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Pour nous tous, c'est sûr qu'on ne peut pas dire c'est le nous tous, l'ensemble de l'humanité, mais bien l'ensemble des élus du peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » En anglais, c'est intéressant, c'est que ils disent « out of every people ». Donc, c'est vraiment l'idée que Dieu a pris des êtres humains, des élus, de l'ensemble des tribus, des langues, des peuples, des nations, mais ça ne veut pas dire qu'il a pris tout le monde. Out of, ça veut dire qu'il les a pris, il les a sortis. Le premier point qu'on va regarder, c'est les objets de l'amour du Père. Romains 9, verset 13. « Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Donc, c'était les élus. Romains 9, c'est un passage classique pour étudier la doctrine de la rédemption particulière, parce que c'est particulièrement bien développé. Donc, on parle des objets de l'amour du Père, et on parle aussi des élus de Dieu, Romains 8, 30. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » C'est très intéressant de regarder un peu le temps de verbe là-dedans. Ceux qu'il a prédestinés de toute éternité, il les a aussi appelés. Remarquez que tous les verbes sont au passé. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, si tu étais prédestiné, tu vas te rendre à la gloire. C'est ce qu'on appelle dans le golden chain, c'est vraiment la chaîne de la prédestination. Alors, la chaîne d'or, souvent que vous allez voir dans des commentaires, on appelle ce passage-là la chaîne d'or. De la prédestination à l'appel, de l'appel à la justification, de la justification à la glorification. Éphésiens 1, verset 4 à 7. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Donc, les élus de Dieu, mais aussi les Écritures utilisent d'autres termes. On parle du peuple de Dieu. Mais dans le fond, c'est toutes des choses qui sont des synonymes. Luc 1, verset 68, et aussi verset 77 et 78. Verset 68 dans Luc 1. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Verset 77, « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. » Donc, les élus de Dieu, le peuple de Dieu, on peut aussi, le Seigneur utilise dans les Écritures aussi l'expression « les brebis ». Ses brebis. Jean 10, verset 15 et verset 26 à 29. Verset 15. « Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Voyez-vous, c'est très clair. « Je donne ma vie pour mes brebis. » Il ne dit pas « je donne ma vie pour le monde entier. » Verset 26. « Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Alors, voyez-vous, ici dans le contexte, il utilise le mot « brebis ». Matthieu 25, verset 32 à 34, on met encore l'expression « brebis » pour parler des élus. Verset 32, « Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Voyez-vous, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont à sa droite, ceux qui sont à sa gauche. Les brebis, c'est ses élus. Les boucs, c'est les non-élus. Alors, il ne dit pas à tout le monde « entrez ». Il dit uniquement aux brebis qui sont à sa droite. Autre expression que la Bible utilise, les enfants de Dieu. Jean 11, verset 52. « Et ce n'était pas pour la nation seulement, C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y avait des enfants de Dieu qui étaient non seulement dans la nation juive, mais qui étaient aussi dans d'autres nations. Et le Seigneur dit qu'il est mort afin de venir chercher les brebis qui avaient dans d'autres, les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Le Seigneur utilise aussi l'expression « son Église ». Éphésiens, chapitre 5, verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Pas « il s'est livré lui-même pour tout le monde », « s'est livré lui-même pour elle, l'Église, l'ensemble des élus de toutes les époques, de tous les temps. » Aussi, autre expression que les Écritures utilisent pour parler encore une fois des élus, de la rédemption particulière, c'est le terme « épouse ». Ésaïe 54, versets 5 et 6. « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. » Alors, le deuxième point qu'on va regarder, c'est que les arguments qui sont de la Bible qui prouvent la rédemption particulière. Parce que, si on regarde ça comme faux, d'aplomb, on étudie les Écritures avec profondeur, on se rend compte que lorsqu'on prêche la rédemption universelle, on jette du discrédit sur différentes choses. Donc, du discrédit, c'est comme quelque chose de négatif sur Dieu lui-même. En prêchant ça, on dit des choses qui contredisent Dieu, donc on amène du discrédit. Quand on dit quelque chose qui dit contraire de ce que Dieu dit, on est d'impétate, comme on dit. Alors, sur son amour, on dit, selon la rédemption universelle, Pierre n'aura pas été aimé plus que Judas. Alors, c'est sûr qu'on jette du discrédit sur l'amour. Parce que si l'amour que Jésus avait envers Judas était aussi grand que celui qu'il avait envers Pierre, Judas aurait été sauvé aussi. Alors, l'amour, dans les Écritures, quand Dieu parle de l'amour envers ses brebis, c'est un amour particulier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucune forme d'amour envers Judas, mais ce n'était pas de l'amour à salut. Donc, jette du discrédit sur Dieu lui-même, sur son amour, sur son immuabilité. L'immuabilité, ça veut dire que Dieu ne change pas. Alors, car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alors, c'est sûr que si Dieu, de toute éternité, a décidé d'accorder le salut à un homme précis, immuable, d'hommes et de femmes, qui, au cours de l'histoire, finirait par recevoir la rédemption de Dieu, il recevrait la foi, il recevrait la repentance, à quelque part, c'était en train de dire que ça s'adresse à autre que ceux choisis, c'était en train de dire que Dieu change. Dieu est immuable, donc Dieu ne change pas. Ce qu'il a décidé de toute éternité ne changera jamais. Aussi sur la sagesse de Dieu. Où serait la sagesse de ne pas mener son plan jusqu'à son accomplissement? Si tu dis que la rédemption est universelle, donc Dieu a racheté tous les hommes, comment ça se fait qu'il n'est pas capable de se rendre jusqu'au bout? Parce que la Bible elle-même dit que ce n'est pas tous les hommes qui vont la recevoir. Alors tu es en train de dire que Dieu n'est pas sage dans ses... Tu dis que ça s'adresse à tout le monde, puis en même temps, tu dis qu'il n'est pas capable de l'accomplir. Tu dis que son plan n'est pas parfait. Alors que la Bible dit que le plan de Dieu, le décret de Dieu en toute chose est parfait. S'il savait que des hommes refuseraient sa grâce, pourquoi aurait-il permis que son Fils souffre pour eux? Au fond, c'est ça la question. Et s'il ne le savait pas, cela démontrait que Dieu ne serait pas omniscient. Donc, tu jettes du discrédit sur l'amour de Dieu, sur son immuabilité, sur sa sagesse, aussi sur sa justice. Romains 3, versets 25 à 26, « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, la rédemption universelle, ça jette du discrédit sur Dieu, sur toutes ces choses-là. L'amour de Dieu, son immuabilité, sa sagesse, sa justice. Et aussi l'autre idée que John Owen, dans The Death of Christ, je ne me souviens plus du reste du... En tout cas, l'idée, c'est qu'il voulait démontrer, il a écrit à un moment donné, que la mort de Christ ne pouvait pas être à la fois pour tous les hommes et pour un peuple particulier. Parce que l'argument est l'argument suivant. La rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est le rachat par Dieu en subissant la punition qui aurait dû être la leur à leur place. Alors, si tu es en train de dire que Dieu, Jésus, a payé pour les péchés de tout le monde, tu es en train de dire que s'il y a des élus qui vont au ciel, les autres n'y vont pas, mais Christ a payé pour leurs péchés, mais qu'après, ils vont aller en enfer, donc il va avoir un double paiement. Il va avoir le paiement qui va avoir été fait par Christ, mais tu es en train de dire, c'est à eux autres de s'en approprier, mais tu es en train de dire, le paiement que Christ a fait, c'est pas suffisant, donc, parce que la Bible dit que ceux qui ne sont pas sauvés vont aller en enfer. Donc, c'est vraiment l'idée du double paiement. Alors, les péchés ne peuvent recevoir un double paiement, celui à la fois de Christ et celui des hommes. Ou ton enfer, ou l'équivalent de ton enfer est payé par Christ, ou l'homme va le payer lui-même. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Il ne peut pas avoir payé pour l'ensemble des hommes et que les hommes n'héritent pas de ce qu'il avait accompli. Ça jette aussi du discrédit sur son omnipotence, donc sur sa toute-puissance. Ésaïe 50, verset 2, « Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il pas répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. » L'idée ici, c'est que le Seigneur, il dit, « Ma main est-elle devenue trop courte pour racheter? » C'est sûr que si Dieu aurait voulu que toute l'humanité soit sauvée, toute l'humanité aurait sauvée. Mais c'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Et ça l'a rejeté aussi du discrédit sur sa gloire. Et on avait déjà expliqué que la gloire de Dieu, c'est la manifestation simultanée de l'ensemble de ses attributs. Alors, on pourrait prendre tous les attributs de Dieu et de démontrer que lorsqu'on prêche une rédemption universelle, on jette du discrédit sur chacun des attributs de Dieu. Maintenant, ça jette... On a parlé sur Dieu lui-même, et non seulement sur Dieu lui-même, ça jette du discrédit, mais ça jette aussi du discrédit sur la grâce et sur l'œuvre de Christ. Encore une fois, ça revient sur son amour en lui. Son amour, l'amour de Christ pour nous, dans Jean 15, verset 13, ça dit, « Il n'y a pas, c'est Jésus qui parle, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et les Écritures nous enseignent que les amis de Christ, c'est ceux qui lui obéissent. Et c'est impossible que quelqu'un qui n'est pas sauvé obéisse à Christ. Vraiment. Alors, sur son œuvre aussi, son œuvre consistait à satisfaire la justice du Père, à finir la transgression et à ôter le péché. La rédemption universelle rendrait inutile et inefficace l'œuvre de Christ parce que tous les hommes ne seraient pas sauvés. La rédemption universelle, si tu dis que tous les hommes peuvent venir au salut, c'est qu'il est en train de dire que l'œuvre de Christ n'est pas efficace parce que ce qu'il a fait, il ne le rendra pas jusqu'au bout. Alors, sur sa mort également, la mort de Christ, Romains 8, verset 1 et verset 33. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez-vous, ça ne dit pas, il n'y a pas aucune condamnation pour l'humanité. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors, le principe de la justification, on va avoir une leçon strictement juste sur la justification. Mais la justification, c'est une déclaration qui est légale de la part de Dieu lui-même qui dit de quelqu'un, cette personne-là est juste. Un élu, tout élu, tout véritablement élu, le Seigneur a déjà déclaré un tel, il est élu. C'est comme s'il avait acheté la masse de, le, de la royauté. Tu ne peux pas monter plus haut que ça. Là. Tu ne peux pas revenir et dire, ah ben moi je vais aller en appel. Tu ne peux pas aller en appel. Quand Christ, quand Jésus, le Père dit, telle personne est élue, mais pourquoi peut-il déclarer qu'une personne est élue? Pourquoi, par exemple, le Seigneur peut dire, Marcel Longchamp est élu? Pourquoi Marcel Longchamp est juste? Est-ce que l'ensemble de ma vie, je n'ai jamais péché et que le Seigneur peut dire, il est juste sur une base discrétionnaire comme ça? Il faut qu'il se base sur quelque chose. Sur quoi se base-t-il pour dire que je suis juste? Tout simplement, par Jésus-Christ, les deux aspects de son œuvre qu'on appelle l'obéissance passive, l'obéissance active. Vous allez m'entendre dire ça souvent, mais ça ne me dérange pas que je le répéterai 1000 fois. Parce que c'est important qu'on se le rende dans le coco, bien d'aplomb. L'obéissance passive, ça voulait dire que l'ensemble des péchés que j'ai commis depuis que je suis tout au monde, tous les péchés que j'ai commis, en pensée, en parole, en action, en omission, les fautes secrètes, tous ces péchés-là, le plus petit de l'ensemble de ces péchés-là, me valait d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. On n'a pas aucune idée de jusqu'à quel point Dieu est le péché. Pour condamner quelqu'un à l'enfer éternel pour un petit péché, il faut que le péché à ses yeux, ce soit extrêmement grave. C'est sa sainteté seule qui peut nous aider à comprendre ça. Alors, il fallait que, si moi je te pourrais te déclarer juste, il fallait que Jésus aille payer à ma place pour chacune des fautes que j'ai faites, ça méritait une punition X dans l'enfer, il fallait qu'il ait subi la punition à ma place. Mais c'était pas tout. Déclarer juste, Dieu exige que je fasse une parfaite obéissance à sa loi, au décalogue, et pour les Juifs, ça incluait même les lois morales, les lois civiles et les lois cérémonielles. Il fallait que j'aie fait ça à la perfection. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà étudié le décalogue. Quand tu étudies le décalogue, tu comprends vraiment comme il faut les 10 commandements. C'est d'une profondeur. Par exemple, dans Matthieu 5 à 7, qu'on appelle le sermon sur la montagne, Jésus vient expliquer aux pharisiens, au peuple juif, jusqu'à quel point le décalogue, c'est profond. Beaucoup plus qu'eux croyaient. Par exemple, eux croyaient, ah ben, disons que tu es un homme, il n'avait jamais couché avec la femme d'un autre, donc il pensait qu'il n'avait pas fait de péché d'impureté ou de péché d'adultère. Le Seigneur, il dit, non, ça ne marche pas de même. Il leur explique que le péché d'adultère, tu peux l'avoir fait dans ta tête des centaines, peut-être même des milliers de fois, mais aux yeux de tous, tu es comme pur parce que tu n'as pas couché avec la femme du voisin. Le Seigneur, il dit, l'exigence que moi je demande à la loi, c'est que ça va jusque dans les pensées. Alors, il n'y a pas personne qui a jamais accompli les 10 commandements dans sa profondeur. Christ, quand il est venu sur la terre, il a accompli la loi, le décalogue, les 10 commandements, à la perfection, à notre place. Pourquoi Dieu peut déclarer qu'on est juste? Parce que tous nos péchés ont été payés par Christ en subissant notre châtiment à notre place. Et le châtiment ayant été payé, on se trouvait être blanc comme neige. Mais ça ne nous rendait pas juste pour autant, parce que pour être juste, il fallait que tu aies accompli la loi à la perfection. Christ le fait aussi à ta place, et à cause qu'il l'a fait à ta place, le Père peut dire, Marcel Longchamp est juste, comme il peut dire, n'importe quel vrai chrétien est juste, parce que ses péchés sont réglés, et parce que la justice que Dieu exigeait est réglée par Christ. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, la justification, c'est une notion fondamentale. Alors, 1 Corinthiens 11:32 aussi qui dit, « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Alors, ça jetterait aussi du discrédit sur les offices de Christ. On les a vus récemment, qu'ils sont tels, rois, prophètes, sacrificateurs. Si tu prêches la rédemption universelle, tu amènes du discrédit sur l'office, sur les offices de Christ. Jean 17, verset 9, des versets importants, c'est pour eux que je prie, de qui le Seigneur parle. Il ne parle pas de l'ensemble du monde, il dit lui-même, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Dieu le Père avait donné un homme précis et immuable qui ne change pas, d'hommes et de femmes qui avaient placé en Christ avant la fondation du monde, et ce n'est que eux qui, dans le temps, dans l'espace, dans le courant de l'histoire, recevraient la foi et la repentance et qui seraient régénérés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, ceux que le Père a choisis, ceux que Jésus a rachetés, puis ceux que l'Esprit a régénérés, c'est les mêmes. Bien important de saisir ça. Alors, il dit, « Et sur le travail de son âme », verset Ésaïe 53, verset 11. Ici, on parle d'Ésaïe 53, c'est une prophétie sur la venue future de Jésus-Christ, le Messie. Et dans Ésaïe 53, ça dit, « À cause du travail de son âme, de Christ, il rassasira ses regards par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » Et il se chargera de leurs iniquités. Donc, Christ était d'une pureté absolue et il a accepté de faire mettre sur lui l'ensemble des péchés de ses élus et que le Père juge ces péchés-là sur lui. Alors, c'est vraiment important de saisir que si on est saint, si on est sauvé, c'est pas à cause qu'on fait des bonnes œuvres, mais c'est vraiment tout est centré sur la personne et l'œuvre de Christ. Donc, sur l'utilité aussi de la rédemption. Matthieu 12, verset 31-32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Voyez-vous, si on prêche la rédemption particulière, on est en train de dire que même que tu as péché contre l'Esprit, tu es pardonné. On dit tous les péchés pardonnés. Le Christ lui-même dit que certains péchés ne sont pas pardonnés, dont le péché irrémissible, le péché contre le Saint-Esprit. 1 Jean, chapitre 5, verset 16. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. » Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 à 20. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Verset 20 aussi, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Quand on regarde ça à l'époque, 8 personnes sur l'ensemble de l'humanité, on estime qu'il y avait déjà quelques millions de personnes sur la Terre à cette époque-là. 8 qui ont été sauvées, si vous mettez 8 sur 1 million ou 2 millions, ça ne fait pas un très haut pourcentage. Jude 7, que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent, comme eux, à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Alors, il y a aussi, ça c'est un point qui a été contesté en théologie aux États-Unis, il y a des courants de pensée, de personnes qui prétendent que les personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile, on prend par exemple, je ne sais pas, des Chinois du fin fond de la Chine, donc qui vivent en campagne, ou des Africains dans certaines tribus qui sont tellement loin qu'ils n'ont jamais entendu ni la radio, ni la télévision, il n'y a jamais personne qui est venu leur prêcher, il y en a qui disent « Ah, ils sont sauvés ». C'est pas ça que la Bible enseigne. Alors, ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, la Bible dit qu'ils sont coupables la même chose. Même s'ils n'ont pas entendu l'Évangile, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'ils vont aller au ciel pour autant. Psaume 147, verset 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Loué l'Éternel. Voyez-vous, l'Éternel ici dit, « J'ai pas agi de la même manière envers Israël que j'ai agi envers l'ensemble des nations. » Il dit lui-même qu'il n'a pas agi pour les nations. Ils ne connaissent point ses ordonnances, mais ça ne faisait pas en sorte qu'il était innocent parce qu'il n'avait pas reçu la lumière. Parce que la Bible dit dans Romains 1 que tous ont péché, sont privés de la gloire de dans toi, c'est-à-dire Romains 3, sont privés de la gloire de Dieu, et que uniquement le fait de voir les perfections invisibles de Dieu et leur propre conscience était déjà suffisant pour qu'ils aient, qu'ils sentent le devoir d'adorer Dieu. Ils ne l'ont pas fait et Dieu dit que juste ça, c'est suffisant pour les condamner. Même s'ils n'ont jamais entendu l'évangile de leur vie, le Chinois du fin fond de la Chine ou l'Africain du fin fond, quand il vole, il sait qu'il fait mal. Alors, Dieu dit que ça devrait être suffisant pour lui donner le goût d'adorer Dieu. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voyez-vous ici, l'accent est mis sur notre responsabilité. Ça nous dit, si les personnes ne sont pas sauvées, puis il n'y a personne qui leur parle de Christ, soit par la prédication, soit par tout autre moyen qu'on peut prendre, la parole, l'écrit, mettre des sermons sur Internet, faut prêcher l'Évangile, faut que les gens connaissent l'Évangile, et ça, le Seigneur nous a confié la responsabilité de ça. On ne peut pas s'exclure, dire « Ouais, ben ça ne s'adresse pas à moi ». Ça s'adresse à tout chrétien. Alors, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? On pourrait dire aussi « Comment en entendront-ils parler si personne qui évangélise? » C'est aussi simple que ça. Alors, c'est notre responsabilité de faire connaître l'œuvre de Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Quelles sont les applications qu'on peut faire du texte d'aujourd'hui? Première, la rédemption particulière est source de grande paix et de grande joie. Notre salut est sûr parce qu'il est fondé sur l'œuvre merveilleuse, glorieuse et absolument complète et divine de Christ. Plus on comprend ce que Christ a fait, plus on est content, plus on est en paix et plus on est en joie, parce qu'on sait que notre salut ne dépend pas de nos œuvres. Mais la véritable foi va produire des œuvres. Il ne faut pas se tromper non plus, puis complètement rejeter les œuvres comme s'il n'y avait aucun rôle à jouer, parce que la véritable foi va produire des œuvres. Mais il faut comprendre que notre salut, Dieu ne commencera pas à prendre une balance, puis à regarder nos bonnes actions, puis nos mauvaises actions, puis si ça penche plus du côté des bonnes, il nous accorde le ciel, puis si ça penche plus des mauvaises, il ne nous l'accorde pas. Ce n'est pas basé sur notre œuvre à nous, c'est basé sur l'œuvre de Christ. Deuxième application, apprenons, défendons et enseignons plus que jamais les doctrines de la grâce. N'oublions pas que le bon dépôt nous a été confié. Le bon dépôt, c'est que Dieu a mis dans ses saintes écritures ce que c'est le salut, et on ne peut pas commencer à prêcher n'importe quel salut. Il faut que ce soit le salut biblique. Alors, et encore là, il y a une responsabilité pour nous. Quand je dis « apprenons, défendons et enseignons », ça implique que pour enseigner quelque chose, il faut d'abord que tu le comprennes toi-même. Si tu ne le comprends pas, comment peux-tu l'expliquer à quelqu'un d'autre? Alors, je dis « apprenons ». D'abord, il faut que tu prennes le temps de comprendre ce que le Seigneur enseigne sur le sujet. Après ça, ça dit « défendons ». Si on a besoin de le défendre, c'est parce que c'est attaqué de tous bords, de tous côtés. Aujourd'hui, les doctrines de la grâce sont attaquées, remises en question, rejetées par une très grande majorité de la chrétienté. Alors, ça implique faut d'abord les connaître, ensuite les défendre, et plus que ça, aller plus loin, l'enseigner à d'autres pour que le message... Si aujourd'hui, on a encore accès à la doctrine pure de l'Évangile, c'est parce qu'il y en a qui ont porté le flambeau jusqu'à nous. Mais nous, on a la responsabilité de la transmettre aux autres, à la prochaine génération. On ne peut pas dire, « Ah, ben moi, je l'ai reçu, ben les autres s'arrangeront plus trop. » Ça ne marche pas de même. Troisième application, demandons la grâce de demeurer ferme et fidèle jusqu'à son retour Pourquoi on se doit de la demander? Parce que le mouvement actuel de l'écuménisme, de chercher à ramener tout le monde sous la jupe de Rome, c'est définitivement des outils du malin dans le but de diluer l'Évangile et de le rendre inopérant, de le rendre, il a enlevé les aspects les plus importants de l'Évangile. Alors, quand on dit « demandons la grâce de demeurer ferme et fidèle », il ne faut pas oublier qu'on est dans un mouvement international qui, l'Évangile est porté à se diluer un petit peu partout. Il faut faire très attention et ne pas se penser que nous, on est fort, on va passer à travers de ça. Ça prend la grâce de Dieu. Demandons-le pour que, quand Jésus va revenir, il nous a dit « trouverai-je de la foi lorsque je reviendrai? » Qu'est-ce que ça l'impliquait? Ça l'impliquait qu'il n'en resterait peut-être pas un très grand nombre qui l'avait. « Trouverai-je de la foi? » C'est une question. « Trouverai-je de la foi lorsque je reviendrai? » Ça veut dire que la quantité de personnes qui vont rester fidèles à sa parole et au véritable Évangile pur, il va en rester de moins en moins. Alors, prions pour qu'on soit dans ce groupe de personnes-là. Que notre grand Dieu et puissant Seigneur soit exalté éternellement. Amen.
Amen. Amen.